I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est un nouvel épisode de Culture Numérique qui débute et vous êtes avec vos écouteurs en train de nous écouter, ça nous fait très plaisir. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée, ça nous aide, n'est-ce pas Valentin?
Bien sûr, et abonnez-vous aussi.
Oui, s'abonner, c'est bien. Ça va. Valentin Blanchot, rédacteur en chef de Siècle Digital, qui, comme beaucoup dans le secteur, continue à suivre les informations fortes rebondissements entre Huawei et les États-Unis.
On ne s'ennuie pas, hein?
Non, jamais avec eux. Bon, il n'y a pas un grand tollé aussi fort qu'on a pu vivre quand Trump a décidé de fermer la porte des États-Unis à Huawei. Pour autant, il y a encore des choses qui se passent. Peut-être la première qu'on retient, et je veux bien que tu nous expliques un peu comment ça se passe dans ces cas-là, c'est le rapprochement avec la Russie. Concrètement, ça veut dire quoi un rapprochement avec la Russie pour la Chine, pour Huawei?
Ben, pour Huawei, ça veut dire gagner quand même des clients pour installer l'infrastructure 5G dans des pays. Et pour la Russie, c'est plutôt montrer qu'ils sont toujours là et qu'ils sont un petit peu avec Vladimir et toujours aussi malin histoire, quand il s'agit d'embêter les Américains.
Mmh, les ennemis de mes ennemis sont mes amis.
Exactement.
C'est un peu ça. Ouais, on va le genre. C'est vrai que la Chine a dû préparer une contre-attaque. Ils ne peuvent pas se laisser faire. Alors comment comment font-ils, notamment avec la relation des GAFA? On a des révélations comme quoi, en fait, il n'y aurait pas que les États-Unis d'un bloc tous ensemble d'accord pour contrer la Chine, mais qu'il y aurait plutôt des échanges bilatéraux.
C'est ça. Alors, c'est des révélations qui ont été portées par le New York Times et, par exemple, le gouvernement qui se prépare à une espèce de riposte, une espèce de contre-attaque, aurait ordonné, alors je trouve le terme un peu fort, mais voilà,
c'est vrai que c'est étonnant.
Ce qui ressort, c'est ordonné à des entreprises américaines de ne pas obéir au décret passé par Donald Trump. Et dans ces entreprises, on retrouve par exemple, dans le cadre d'une réunion, il y avait Microsoft, Samsung, ARM, Google ou encore Facebook.
Une réunion qui a été effacée du programme officiel en Chine, donc on voit qu'on n'a pas trop envie de le savoir. En même temps, on peut se dire que c'est raté. Parce que les décisions qui ont été prises par la suite, c'est que Facebook ne veut plus que son application soit pré-téléchargée sur les appareils Huawei, que Google ne veut plus que Android soit utilisé par Huawei. Donc on pourrait se dire que, ok, il y a une réunion, mais elle a échoué.
Je pense que la problématique pour ces entreprises-là aussi, c'est de ne pas se mettre le gouvernement Trump à dos, qui essaie déjà de mettre en place une grosse enquête, on en a déjà parlé il n'y a pas longtemps, d'antitrust pour Google, Amazon, Facebook et Apple. Donc, c'est difficile pour eux de jouer un double jeu et de tromper un peu leur propre pays, surtout que la plupart de leurs utilisateurs sont américains. Donc ils ont un peu si je me permets du terme, le cul entre deux chaises, et qu'il vaut mieux suivre le décret de leur propre pays que de suivre un peu une directive en coulisses avec le gouvernement chinois, sachant que eux aussi ça leur pose des problèmes, je pense, à ces GAFA-là ou à ces grandes entreprises-là. Mais que voilà, je pense qu'il faudra attendre une décision unilatérale entre les États-Unis et la Chine pour que eux puissent enfin agir et suivre un petit peu leur propre volonté plutôt que celle qui est imposée.
Alors là où ça va se jouer, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi sur la 5G, parce qu'il y a toujours la bataille de qui va être le premier. La Russie a dû sortir le chéquier, mine de rien, parce que pour que ça soit Huawei qui fasse toute l'infrastructure, c'est une relation commerciale qui est très forte. Quel est l'enjeu pour la Russie derrière de faire cela, de donner ce contrat à Huawei? Et pourquoi la Russie, elle, n'a pas peur que la Chine l'espionne, alors que les États-Unis et récemment la Grande-Bretagne a dit... On n'est pas très sûr de la fiabilité et du secret que peut tenir un réseau comme Huawei.
Ouais. Alors le côté Royaume-Uni, c'était surtout le constat qu'en fait le développement hyper rapide et hyper puissant de Huawei en fait a entraîné éventuellement des lacunes en termes de sécurité. Ce qui est logique quand on veut aller trop vite. Et du coup, Huawei derrière a appliqué en disant on va foutre 2 milliards d'euros ou de dollars, je crois, en R&D spécialement pour la sécurité. Excuse-moi, donc c'est une bonne réponse de la part de Huawei. Et du côté de la Russie, ben, le fait de prendre Huawei, c'est de ne pas prendre un opérateur américain, c'est de ne pas prendre un opérateur européen. Et non, je ne pense pas qu'ils aient peur, les Russes, parce que je pense que les Russes sont très au fait aussi des mesures d'espionnage, de contre-espionnage. Et la Chine est quand même un allié récurrent de la Russie. Ils se rangent souvent un peu derrière les mêmes positions, surtout en cas de conflit avec l'Europe ou les États-Unis ou enfin le monde occidental. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de preuves, enfin pas beaucoup de peur, pardon, du côté de gouvernement de Vladimir Poutine.
Alors là où il y a toujours les États-Unis qui tremblent, en tout cas tout le monde attend d'un moment à un autre cette décision, ça serait évidemment sur Apple. C'est là où il y a encore vraiment une carte à jouer de la part de la Chine pour déstabiliser autant qu'ils ont pu déstabiliser Huawei, parce que c'est vrai qu'il y a une partie de l'activité quand même très similaire autour de la vente de smartphones. Tu mettrais une pièce, toi, sur le fait que tout d'un coup Apple soit banni, comme a pu l'être Huawei aux États-Unis ?
C'est tout à fait probable, puisque ce serait un petit peu l'argument, le top of the top, tu vois. Enfin, en gros, voilà, on vous bloque. Enfin, Apple n'a plus le droit de vendre ses produits. Ça va embêter beaucoup de Chinois, parce que beaucoup de Chinois, chez beaucoup de Chinois, c'est avoir un smartphone Apple ou un produit Apple, c'est un peu le must, en gros, du haut de gamme, parce que beaucoup d'appareils chinois sont pas forcément toujours de bonne qualité. Ça a changé, mais avant c'était vraiment l'appareil emblématique quand tu avais réussi dans la vie. Et puis après, il y a aussi une autre problématique, c'est que beaucoup d'appareils américains sont montés et sont assemblés en Chine. Donc c'est une autre problématique aussi. Mais bloquer Apple, c'est aussi mettre des gros bâtons dans les roues et avoir une grosse réponse face à la décision qu'a pris Donald Trump. Donc on verra un petit peu, parce que c'est Apple joue quand même bien le jeu du gouvernement chinois pour continuer de vendre ses produits là-bas. Donc il est possible que la Chine lui impose des règles encore plus strictes, histoire d'embêter un petit peu, que ce soit un petit peu du harcèlement, mais pas trop. Je pense que ça peut aller d'abord comme ça et aller en escalade jusqu'à fermer Foxconn. Mais si tu fermes Foxconn aussi à Apple, Foxconn gagne moins d'argent. Donc il y a vraiment, comme on l'a dit dans un autre podcast, il y a une vraie interdépendance entre les deux, et que c'est juste un jeu du plus têtu ou
Foxconn,
du plus
anti-chinois,
qui est une entreprise chinoise
qui fait
des appareils électroniques.
Non, oui. Non, c'est pour rappeler à nos auditeurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop.
Je pensais qu'il y avait une petite colle, des appareils électroniques, qui les assemble et qui fait ça pour beaucoup de constructeurs occidentaux.
Tout à fait. Bon, on est pressé de savoir évidemment quelle nouvelle pièce de l'échiquier va être bougée par la Chine, parce que c'est vrai que pour l'instant c'est plutôt les États-Unis qui ont agi et qui ont mis en place des actions contre la Chine. La Chine n'est pas ok, n'est pas d'accord et même plutôt en colère, mais en termes d'actions concrètes, on attend encore et on espère que ça va pas trop non plus déstabiliser évidemment ce qui est en place, et notamment la paix entre ces États qui sont pas des petits États, n'est-ce pas ?
Bah, espérons.
Bon, allez, à très vite, Valentin.
Salut.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky, soft, and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.